ce matin en Beauce.
C'est sérieux.
C'est notre collaborateur en affaires policières, Daniel Desmarais. Salut, comment ça va, Daniel?
Ça va bien, Gaston.
Ouais. Bon, une alerte Amber, ça a beaucoup de critères à être respectés. Et le premier, c'est que il faut que les enfants soient enlevés et que leur vie soit en danger. C'est ce que je comprenais d'une alerte Amber.
C'est en plein ça, parce que ça prend des critères bien, bien importants. Puis c'est des critères qui sont évalués par les crimes majeurs. Donc, il faut que le dossier soit rendu dans les mains des crimes majeurs. Et pour ça, ben, il y a comme une grille d'évaluation que quand le dossier arrive, parce que c'est plate, là, mais il ne faut pas se cacher que on a de plus en plus de dossiers de ce genre-là. Puis là, quand je dis de ce genre-là, là, je parle d'enfants qui sont pas revenus à la maison, qui sont dans les mains de l'ex-conjoint. Et des fois, ben, il y a différentes situations. On ne veut pas redonner tout de suite l'enfant parce qu'on a d'autres enjeux à travers ça. Et à ce moment-là, ben là, la conjointe ou le conjoint, dépendamment de quel côté que les enfants étaient rendus, ben il appelle la police et dit, ben garde, il devait rapporter les enfants à telle heure, il les a pas rapportés. Et là, s'enclenche une enquête, une vérification, plein d'éléments comme ça. Et l'alerte Amber n'est pas déclenchée immédiatement, ça c'est certain. Ça prend des critères, puis des critères de dangerosité qui ont été validés et vérifiés. Entre autres, un des éléments que moi qui m'est ressorti incroyable, que j'ai vécu dans le temps que j'étais policier et responsable, c'est des informations au niveau des hôpitaux, des urgences. Parce que dans notre enquête, une des premières choses qu'on fait, c'est qu'on valide, surtout dans le cas présent. C'est un accident, on sait qu'il y a eu des blessés, on sait qu'en tout cas, du moins, ça a cogné très fort. On appelle les urgences et impossible d'avoir de l'information. On nous dit c'est confidentiel, on peut pas vous donner cette information-là. Donc déjà là, on part là un petit peu de travers. Puis c'est tout le temps un ensemble d'éléments, un dossier, quand à la fin on analyse, puis on se dit il y a eu des problèmes.
Parce que dans ce cas-ci, c'est pertinent, ce dont tu nous parles. Il y avait un accident sur une autoroute. Les policiers constatent qu'il y avait certainement des enfants à l'intérieur du véhicule, puisqu'on retrouve de la crème glacée à l'arrière puis des sièges d'enfants. L'auto est en plein milieu de l'autoroute, il n'y a pas personne dedans. Selon toi, de ce que tu me dis, probablement que le premier réflexe des policiers, ça a été de savoir s'il n'y avait pas des gens qui avaient été transportés à l'hôpital.
Effectivement. Ça, c'est un des premiers réflexes qu'on a. Après ça, bon, on interroge la famille. On essaye de voir qu'est-ce qui s'est passé. Y a-t-il eu des informations? Y a-t-il eu des communications qui sont faites depuis ce temps-là? Parce que la personne peut appeler un membre de la famille pour qu'il vienne les chercher et les emmener à l'hôpital ou peu importe. Donc, il y a plein d'éléments d'informations qui doivent être validées avant de dire, bon, on vient de tomber dans la phase soit de l'alerte médiatique ou soit de l'alerte
bon.
Amber.
Daniel, il y a la santé mentale là-dedans. Dans le rapport de la coroner, on apprend que ce gars-là avait crainte de perdre ses enfants, était anxieux, en tout cas avait peut-être une petite dépression, ou ouais, faisait peut-être une dépression à cause de cela. Si vous avez de la difficulté à savoir s'il y a eu des gens qui sont arrivés à l'hôpital, j'imagine qu'avoir le dossier de la santé mentale de l'individu, ça va être encore 10 fois plus dur, voire impossible.
Oubliez ça, c'est secret professionnel. Les médecins ne nous donneront pas cet élément-là. Les seules fois où on va vraiment avoir accès à de l'information médicale, il faut vraiment démontrer que présentement, mettons, je vous donne un exemple, à l'intérieur d'une maison, avant de défoncer les portes, quoi que ce soit, on n'a pas d'information, on ne voit pas l'intérieur, on n'est pas capable de statuer si on peut défoncer la porte pour rentrer. Là, on pourrait dire, ben là, on craint qu'il y a un danger imminent présentement qui se passe. On a besoin de savoir l'état de situation de cette personne-là.
Bon.
Et là, ça passe par une espèce de petit circuit là, qui est de vérification, de validation. Et après ça, on va nous informer. Mais ça se fait pas dans les minutes qui suivent.
On a la possibilité maintenant de savoir si un individu est en train peut-être de commettre l'irréparable par des textos qu'il a pu envoyer. Dans ce cas-ci, on avait un texto qui avait été envoyé par le père des deux fillettes où il semblait poser, ou en tout cas tenir des propos qui pouvaient laisser penser qu'il allait mettre fin à ses jours. Est-ce que ça a été, selon toi, analysé par les policiers? Et s'ils ont pris connaissance de ces propos-là, est-ce qu'ils auraient pu, de leur propre chef, décider à ce moment-là que c'était dangereux pour les enfants?
Oui, sauf que dans le cas présent, de ce que j'ai lu du rapport d'enquête de la coroner, c'est que ils sont au courant de ça à 6 heures le matin. Qu'il y a des propos comme ça qui ont été échangés parce que le temps que cette information-là se rende aux policiers, puis c'est pas dit non plus au point de départ comme on lit dans le rapport d'enquête. Mais à l'instant où c'est su, effectivement, là, on vient de tomber dans une autre phase. Mais encore là, ça doit être transmis au niveau des crimes majeurs. Par contre, effectivement, il aurait pu avoir une alerte médiatique sans que ce soit une alerte en vert. La différence, là, ben, des exemples, une personne d'Alzheimer, qu'on fait une enquête, on la trouve plus, on sait plus où elle est, on va lancer une alerte médiatique. Vous allez voir apparaître sa photo dans les médias, puis on va donner une description, comment il est habillé, qu'est-ce qui se passait, tout ça, puis on va donner les détails du pourquoi qu'on le recherche. Mais ça ne sera pas le principe de l'alerte en vert où là, les téléphones se mettent à sonner, que là, les pancartes et les affiches sur le long des routes signalent l'événement, puis que là, on passe en face. C'est fait par après, peut-être trop tard.
Bon, l'alerte médiatique, ça se fait régulièrement. Ça, on le voit de façon quotidienne, pratiquement, dans nos bulletins de nouvelles. Qui décide de déclencher ça? Et on le fait quand?
Bien, c'est le service médiatique de la Sûreté. La Sûreté du Québec ou un corps de police municipal aussi, comme le SPVM ou autre. Là. C'est lorsqu'on a assez d'informations à transmettre qu'effectivement, on craint pour la vie de la personne. Mais dans le cas présent, on est un cran plus loin encore. Là, on a les enfants qui sont impliqués dans le dossier. C'est pour ça que l'alerte Amber, elle vient encadrer les enlèvements d'enfants, les choses comme ça, un petit peu comme je vous disais au début. Mmh. Là. Et c'est, y a une ligne entre les deux, entre des enfants qui ne sont pas revenus. Puis il faut se remettre dans le contexte aussi. Puis on l'a entendu beaucoup. Il était parti. Quand il est parti, il y avait des gens qui étaient là, qui l'ont observé, il est allé manger une crème glacée avec les enfants. C'est difficile à un moment donné de dire, ben, on est rendu où là-dedans? Par contre, à un certain moment donné, ça devait se déclencher.
Bon, la Sûreté du Québec prend le blâme, dit oui, on a changé maintenant nos façons de faire. De ce que j'ai cru comprendre, les façons de faire vont être davantage au niveau de l'alerte médiatique que de l'alerte Amber.
Ben, c'est parce que pour changer les critères de l'alerte Amber, c'est provincial. C'est tous les niveaux, c'est tous les corps de police, c'est de partout. L'alerte Amber a été constituée, a été faite d'une manière. Oui, on va sûrement, en tout cas, reviser l'alerte médiatique à la base pour être sûr qu'on ne perde pas de temps à transmettre de l'information à l'ensemble de la population. Maintenant, entre ça, encore là, je le dis, et le lien de l'alerte Amber, ça, je pense qu'on ne jouera pas dans les cadres de l'alerte Amber. Par contre, si l'alerte médiatique avait été lancée plus tôt, ce que j'ai entendu, ce que j'ai lu, c'est qu'il y a de l'information qui serait parvenue avant auprès de la Sûreté du Québec, et là, il aurait passé à la phase de l'alerte Amber plus rapidement.
Daniel, Patrice, ici, je veux te parler de l'alerte médiatique. Moi, je me suis promené avec un tome pendant des années, là, qui est un téléavertisseur sur lequel des messages étaient envoyés par la Sûreté du Québec, mais aussi différents corps policiers municipaux là, qui pouvaient s'inscrire et envoyer des alertes médiatiques ciblées là, à des gens qui portaient cet appareil-là. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Puis en réalité, Daniel, il n'y en a plus d'alertes médiatiques de cette façon-là. Il n'y en a pas. On ne reçoit pas l'information qui nous était livré il y a quelques années par cet appareil-là, qui, à mon point de vue, n'a pas été remplacé par une technologie, même si on a des cellulaires. On n'a pas ce type d'alerte-là, si je me trompe. Je ne me trompe pas, Daniel, je pense. Là.
Alors, tu ne te trompes pas. Écoute, je me souviens, c'est un genre de padget, là, si je ne me trompe pas. Puis, les informations circulaient immédiatement à l'instant où ça arrivait. Le mode des communications a évolué dans un certain sens, mais je pense qu'on a mis de côté des éléments, des outils qui étaient importants puis qui servaient beaucoup. Puis c'est vous qui, à partir de là, qui jugiez si vous deviez ou pas transmettre l'information puis à quel niveau ça devait se faire.
J'aime ce que tu dis, Daniel. C'est nous qui jugeais. Puis aujourd'hui, ouais, c'est le contraire. C'est la police qui juge si c'est pertinent ou pas journalistiquement.
C'est ça.
Les rôles sont inversés. Je trouve ça un peu plate, puis je suis pas le seul à le penser, là.
Non, puis écoute, tu sais, tu connais ma façon de penser par rapport à ça. J'ai jamais été en accord avec le fait qu'on retenait de l'information des fois. Par contre, il faut comprendre que maintenant, on n'est plus non plus dans ces années-là où les poursuites, où les gens qui disent, bon, ça devait pas sortir, pourquoi ça a sorti, puis donc là, ils ont dû resserrer les informations parce qu'il y avait des poursuites criminelles, il y a des poursuites qui ont été faites envers les corps de police. Et là, on s'est dit un bon matin, ben là, on va trier, on va créer des endroits qui vont trier les informations qui doivent se faire. Et effectivement, ça leur restreint énormément le nombre d'informations qu'on pouvait transmettre. Tu te souviens, le matin, on se parlait, même Gaston, c'est la même chose. Ce temps a évolué, ça doit passer par une boîte médiatique qui analyse l'information qui doit être transmise à la population.
Oui. Maintenant...
Et est-ce que l'événement dont on parle risque de ramener une certaine partie de cette information-là qui était un peu trop hermétique à la Sûreté du Québec, crois-tu?
Bien, je crois qu'on doit ramener des méthodes qu'on avait dans le passé, les mettre au goût du jour, comme on dit, dans la façon de les transmettre. Mais oui, il doit y avoir une ouverture plus grande à ce moment-là qui va faire qu'on va moins échapper d'événements comme celui-là.
Parce que ça va dans les deux sens. Hein? Si on demande l'aide des médias, ben il faut qu'on en redonne aux médias. C'est comme ça que moi, je vois la chose. Là. Alors qu'on réalise souvent que la Sûreté du Québec, lorsqu'elle transmet de l'information, c'est soit pour expliquer à quel point ils ont fait du bon travail, et quand on leur demande, nous, qu'est-ce qui s'est passé dans un crime bien particulier qui frappe notre communauté, on peut pas répondre, ça va nuire à l'enquête. C'est un peu bizarre, un peu triste. Daniel, maintenant, il y a des risques de poursuites. La maire a dit qu'elle entreprendrait des poursuites contre la Sûreté du Québec. Le fait, selon toi, que la Sûreté du Québec ait admis avoir pris un peu de temps à réagir et qu'elle change ses méthodes, elle l'a annoncé hier, est-ce que c'est pas déjà permettre à la dame d'avoir une belle ouverture dans sa poursuite?
Ben, je suis convaincu qu'il va y avoir de la négociation dans ce dossier-là s'il y a poursuite réelle à ce moment-là, mais ce que la Sûreté veut démontrer aussi, c'est que oui, ils vont apprendre de leur erreur puis ils vont corriger certaines situations. Ce qui a été fait est fait, on pourra pas revenir malheureusement en arrière. On n'est pas dans plan B, là. Mais on doit continuer, mais oui, ça vient ouvrir un certain volet à dire qu'on admet certains éléments. Par contre, on va toujours faire valoir aussi qu'on n'avait pas toute l'information au point de départ, puis que l'information, graduellement, quand elle est rentrée, elle a changé le mode, elle a amené les différentes façons de pouvoir faire les recherches puis d'aviser la population. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner, hâte et pas hâte, parce que dans le fond, c'est pas une situation qui se règle par des montants d'argent non plus, là.
Daniel, je veux venir à District 31. Je ne sais pas si tu l'écoutes.
J'avais un autre sujet aussi que je voulais aborder avec Daniel à la fin, OK?
Rapidement, on voit un jeune policier qui arrive et qui veut dénoncer le comportement de son directeur là, qui a décidé de ne pas porter plainte là, par suite à une arrestation d'un individu. Je pense que c'est, aujourd'hui, c'est la façon de faire. Hein? C'est comme ça que ça va se passer.
Ben, c'est le petit bout que j'ai de la misère avec, c'est quand on parle de déontologie là-dedans. C'est bien plus de la discipline interne à ce moment-là, quand quelqu'un, un dirigeant, va décider par lui-même de dire « OK, je relâche la personne sans l'accuser ». Dans le dossier, en passant, oui, je l'écoute, puis j'adore cette émission-là, puis c'est réel. sur point. Mais puis le policier en tant que tel, il joue son rôle méchamment... Pas sûr que je vais dire que je l'aime ou je l'aime pas, là. Mais c'est plus la discipline interne. Hein.
Autre chose, as-tu déjà eu, toi, à composer avec quelqu'un qui avait des problèmes de consommation d'alcool et de dépression alors qu'il était policier sous tes ordres?
Oui, puis ça serait plus rapidement que ce que je vois dans le District 31. Parce qu'on peut pas se permettre de laisser un policier rentrer qui sent la boisson. J'en ai déjà viré, il arrivait au poste, puis dès que je parle, c'est fini, c'est va-t'en à la maison. Le programme d'aide se met en action immédiatement. Et il y a des restrictions qui se font, puis des suivis qui se font. Donc, le cas de Bruno, il n'y aura pas toléré longtemps dans mes mains, c'est sûr.
Daniel, en terminant, je te ramène dans le Binière avec les communications de la Sûreté du Québec. On a reçu un communiqué, nous, hier, nous faisant état d'un poupon décédé dans des circonstances nébuleuses. La Sûreté du Québec enquête, il n'y a pas d'arrestation. Ce matin, le Journal de Québec nous apprend qu'il y a un deuxième enfant de la même famille qui est décédé, un deuxième poupon. Daniel, on nous envoie un communiqué comme celui-là. Pourquoi on fait ça à la Sûreté du Québec? J'ai jamais eu ça, là.
Ouais, c'est spécial un peu. Moi aussi, je suis surpris parce que c'est le genre d'enquête criminelle que normalement l'équipe d'enquête des crimes majeurs embarque dans le dossier puis ils vont éplucher tout. Probablement que il y a de l'information qui pourrait être transmise à la Sûreté du Québec qui va aider l'enquête. Donc, il y a quelque chose qui sort de la maison, qui est plus de l'information de peut-être l'ensemble de la population ou des gens qui ont côtoyé ou qui connaissent cette famille-là. C'est sûr qu'il y a quelque chose de plus que juste l'événement que tu me parles.
Oui, il en manque, hein, c'est ça. On veut mettre un peu de chaleur à quelque part?
Bien, probablement. Ou bien, comme je dis, là, il y a de l'information pertinente qui doit rentrer puis qui ne rentre pas parce qu'on ne sait pas d'où elle provient, mais elle doit rentrer. Okay. Donc, on a un avis comme ça, ça va aider. Puis je pense qu'avec ce qu'on a entendu hier, le fait qu'on veut aller plus loin dans les alertes médiatiques puis vous aviser plus quand il y a des événements majeurs, mais je pense qu'on vient déjà de voir un point en avant.
Mais voilà. Merci, Daniel, de ce commentaire.
Très apprécié encore une fois, Daniel. Tellement intéressant de te parler. On ne souhaitera pas d'autres drames, mais on va attendre anxieusement d'autres rapports du coroner qui pourraient avoir autant de d'éclat que celui qu'on a vu. Et à ce moment-là, on va faire appel à tes services. Je dois te dire que vous faites un excellent travail, la Sûreté du Québec, dans la Beauce. Particulièrement à la hauteur de Vallée-Jonction, à 3 heures du matin, je me suis fait arrêter.
Ça va mieux depuis quelques mois.
Pour un stop.
Ça
a coûté bien, Gaston. Ça n'a pas de bon sens, les amendes. 100 piastres d'amende, 50 piastres de frais, puis 22 piastres de contribution. Sacrifice. C'est quoi les frais, tu sais?
J'ai déjà expliqué tout ça, là, les frais de tout ce qui vient avec, là, les contributions avec la CAVAC. Je suis content de voir que les policiers font de bonnes jobs, mais c'est malheureux pour toi.
Ouais, qu'est-ce que tu veux? Je n'ai pas encore appris. Salut Daniel, à une prochaine, merci beaucoup.
Au plaisir, ça me fait toujours plaisir.
Salut.
Au revoir.
Salut.